une vue d'ensemble de l'actualité.
Je vous ai entendu. Ça vous tente plus qu'on parle de politique ou d'élection. Vous voulez qu'on se concentre sur le travail qu'on a à faire pour vous.
On est toujours en pandémie avec le même gouvernement minoritaire. On a envie de dire tout ça pour ça.
Voici Philippe Quentin.
Oui, Philippe Quentin avec vous en remplacement de Bernard Drainville. Bernard qui prend une journée de repos aujourd'hui après avoir animé notre soirée électorale hier. Donc, il sera de retour demain. Et là-dessus, ben, j'accueille quelqu'un qui a très bien suivi la soirée électorale d'hier, Lise Ravary. Salut, Lise.
Bonjour, Philippe.
Lise, oui. On va le dire aux gens, on se connaît pas vraiment, mais quand oui. même...
On sait qui on est, mais on se connaît.
C'est ça. Ouais. Mais je peux dire une chose, Lise, c'est qu'en fin de semaine, j'ai goûté une tomate de ton jardin. Et elle était vraiment tellement bonne. Alors, voici l'histoire. Je viens à la station vendredi et là, il y a quelques tomates sur un bureau. Vous savez, elles sont donc belles, ces tomates-là. Et là, quelqu'un me dit, c'est les tomates du jardin de Lise Ravary. Je dis, je peux-tu en avoir une? Bien, certain, prends-en une. Et je l'ai mangée dans un sandwich en fin de semaine. Délicieuse. Franchement, de ton jardin, ça a l'air de pas être piqué des vers.
T'es gentil, merci. La prochaine fois, j'amènerai des œufs de mes poules.
Oh, t'as des œufs en plus?
Ben oui.
Et là, là, ça.
Moi, je joue à la fermière. Tu sais, un peu comme Marie-Antoinette avec le petit Trianon, là.
Ouais.
À peu près ça.
Ça m'impressionne. Bon, on retourne aux choses sérieuses.
Oui!
T'as écouté, là, dans l'extrait sonore qu'on vient de dire, Justin Trudeau dit « Je vous ai compris, vous voulez pas d'élection. » Je pense que ça t'a fait tiquer, hein?
Ouais, ça m'a... Bon, je peux comprendre qu'il répond ou il s'adresse à ceux qui ont vraiment pas aimé aller en élection à ce moment-ci. Mais quand le premier politicien du pays, hein, quand même, là, dit « on parlera plus de politique », oh, je comprends qu'ils doivent travailler, mais c'est de la politique ce qu'ils font 24 heures par jour. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Et évidemment, on verra avec le temps.
Est-ce que c'est une façon de s'excuser?
Je ne crois pas. Tout d'abord, c'est pas un gars qui s'excuse facilement, à part évidemment à des groupes là, des groupes historiques si on peut dire. Mais écoute, c'est probablement de dire, écoutez, je le sais que vous avez pas aimé ça. Ça, je le pense. Mais en même temps, moi, je veux dire, j'ai bien de la misère à critiquer des élections, en fait, la tenue d'élections, même quand on a l'impression que c'est pas le bon moment. C'est un des grands gestes qu'on peut faire dans nos vies personnelles et nos vies civiques, et de dire, oh ben là, on n'aurait pas dû parce que, je sais pas, moi, c'est à partir du moment, OK, il va y avoir des élections, c'est sacré. C'est sacré. Et quand j'entends Justin dire ben, que peut-être c'est pas si sacré que ça, je sais pas où il s'en va avec ça, puis je l'aurai à l'œil.
Oui, mais c'est drôle, je te rejoins là-dessus, parce que, bon, de toute façon, historiquement, là, au Canada, un gouvernement minoritaire, ça dure à peu près le temps qu'a duré le dernier gouvernement Trudeau. J'ai pas souvenir d'un gouvernement minoritaire qui a duré 4 ans et demi au Canada. Là, je pense pas que ça soit déjà arrivé. Ça, c'est d'une part. Puis d'autre part, je dois t'avouer que tout au long de la campagne électorale, j'ai trouvé ça curieux d'entendre tous les chefs dire que M. Trudeau n'aurait pas dû faire d'élection, alors que pour eux, c'est l'occasion d'améliorer leur sort, dans le cas de M. O'Toole, peut-être de devenir premier ministre. C'est quoi le message qu'ils envoient? C'est qu'ils étaient à l'aise avec Justin Trudeau comme premier ministre et qu'ils étaient prêts à attendre encore 2 ans? Tu trouves pas qu'il y avait un peu quelque chose d'un peu paradoxal?
Oui, c'est absolument, t'as raison. Puis en même temps, tu sais, c'est comme... Même Justin Trudeau, là, pour un gouvernement minoritaire, d'essayer d'améliorer son ordinaire, si on peut dire, ça ne me choque pas. OK, il y a l'élément pandémie qui joue. Si ça avait été l'année dernière, de toute façon, il n'y aurait pas eu d'élection. Mais ça n'a pas semblé avoir été un facteur hier là dans la tenue des élections. Moi, j'ai pas senti que la pandémie avait été, évidemment, dans les discours politiques, mais même à ça, pas tant que ça.
Ouais.
Quelle
conclusion tu tires sur la popularité de Justin Trudeau à la suite de cette élection-là? Tu sais, souvent, on lit les médias sociaux, puis bon, il est jugé très, très sévèrement. Beaucoup s'attendaient à ce qu'il y ait encore une moins bonne performance. Il n'y a pas eu non plus la performance que lui espérait. C'est quoi son statut au Canada aujourd'hui au plan de la popularité, selon toi?
Oh là là, c'est sûr que les réseaux sociaux nous renvoient toujours des commentaires de gens qui règle générale, déteste quelque chose, c'est rare qu'on fait un statut Facebook pour dire « Mon Dieu, que Justin Trudeau il est formidable! Hein? »
Ouais,
mais dans la vraie vie, hein, la vraie, vraie vie sur le plancher des vaches, ben moi, je pense que oui, c'est clair, c'est évident, j'ai regardé les résultats. Il y a des gens qui aiment Justin Trudeau, qui aiment sa gestion des choses, puis, je veux dire, c'est correct, mais où il se trouve aujourd'hui, je pense qu'il se trouve en très mauvaise position, parce que mon impression, c'est que les libéraux vont chercher à le remplacer.
Tu penses?
Lui, moi, je pense que son tour de piste achève.
Pourquoi?
Des multiples mandats, il y en a pas eu tant que ça. Là, puis je parle au-delà de trois, il y en a quand même pas eu tant que ça. Puis, écoute, même si on veut reconnaître qu'il est dans la fonction qu'il est, mais en même temps, c'est pas le politicien le plus, le plus astucieux, le plus, qui nous en met plein la vue, le leader dont beaucoup de gens rêvent, c'est pas lui. Puis les libéraux aiment pas beaucoup les défaites. Et en fait, pour eux, hier, c'était un apparatchik libéral, c'est une défaite.
Tu penses
parce
vraiment
que le but, c'était majoritaire.
Puis tu penses que les libéraux fédéraux, là, il va y avoir des réunions dans les couloirs du Parlement, puis dire qu'est-ce qu'on fait avec lui, puis est-ce qu'on commence à sonder les appuis que pourrait avoir, par exemple, une Chrystia Freeland, un Mark Carney. Tu penses qu'on s'en va vers ça?
Je pense qu'on s'en va vers ça. Bon, ça sera peut-être pas dans la première année, c'est quand même là. Mais je pense qu'en cours en chemin, on va commencer à entendre parler là, de petites têtes qui vont s'élever pour envoyer la main et dire « Je suis là! »
OK. Je te pose la question suivante. Aux prochaines élections fédérales, peu importe le moment où elles auront lieu, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, est-ce que Justin Trudeau sera à la tête du Parti libéral?
Je ne crois pas.
Non? Puis est-ce que ça va venir de lui ou ça va venir de son entourage qui va lui dire « Justin, c'est peut-être le temps de penser à autre chose? »
Je pense que ça sera un peu des deux. C'est pas un imbécile. Il connaît son parti, hein, probablement mieux que quiconque. Donc, écoute, il peut changer. Écoute, il s'est enlevé la barbe quand même pour des élections. Ça, c'est un gars qui veut changer.
Alors qu'il n'y en avait pas avant. c'est pas un changement fondamental.
Non.
Mais on l'a vu en campagne. On a vu en campagne comment il a un petit peu changé son approche en campagne. Tu sais, honnêtement, ça a été un début de campagne mollasson. Là, faut le reconnaître. Puis tout à coup, oups, il y a eu plus de tonus là, à partir du premier face-à-face, celui de TVA, après ça dans les débats. Puis c'est peut-être ça au bout du compte qui lui a permis de sauver les meubles. Là.
C'est possible parce que dans tous les débats, il a été quand même assez efficace, énervant par moments parce que c'était vraiment le roi de parler par-dessus les autres. Mais disons que, à mon avis, il s'en est très bien sorti. Bon, évidemment, il est bourde normal, là, mais je pense que pour les gens qui s'étaient dit « je vais peut-être voter libéral », parce que là, c'est ça, moi, j'ai entendu tellement de monde, Philippe, qui se sont retrouvés devant leur bulletin et même devant le bulletin ne savaient pas pour qui voter. Écoute, je sais pas si c'est plus que d'habitude, parce qu'aussi, il faut pas oublier qu'entre les conservateurs et les libéraux, surtout avec l'approche de M. O'Toole, qui voulait ramener son parti un peu plus du côté de ce qu'on appelle les « Red Tories », là, à ce moment-là, les différences entre les libéraux et les conservateurs tendent à disparaître, pas pour tout, mais pour un certain nombre de choses. Donc, ça donne, si tu dis entre les libéraux, puis les conservateurs, c'est quoi l'élément qui va faire que je vote pour un ou l'autre? C'est pas nécessairement cartésien. Souvent, surtout dans un cas comme maintenant, c'est comme, j'ai toujours voté libéral ou un autre. Et puis, comme ces élections-là m'ont pas fait d'effet tant que ça, je vais faire la même chose.
Bon, on parle de Justin Trudeau, mais il y a Erin O'Toole aussi. On a entendu son discours à la fin de la soirée. Ben oui, c'était
bizarre.
C'est comme un discours de campagne électorale. Hein. Juste avant le vote, un dernier discours pour galvaniser les troupes. Moi, j'ai eu l'impression, dis-moi ce que tu en penses, que le discours d'Erin O'Toole ne s'adressait pas aux Canadiens dans l'ensemble. Il s'adressait aux militants conservateurs, ceux qui auront à statuer sur son sort lors de l'éventuel vote de confiance pour dire, écoutez, un, il n'est pas question que je m'en aille. Deux, il faut continuer dans la même direction. Puis trois, vous allez m'avoir dans la face encore longtemps. Moi, c'est comme ça que je l'ai pris.
Je pense que tu as raison. Je pense que c'est une bonne analyse. Et je pense aussi que les conservateurs seraient mal avisés de se débarrasser manu militari de Darren O'Toole. Je pense qu'il a encore en lui quelques promesses qui pourraient intéresser les Canadiens. Ce qu'il essaye de faire, tu sais, quand il y a eu l'union de la droite, ça fait quoi, une dizaine d'années à peu près?
Le Reform et le Parti Reform et progressiste conservateur.
Moi, à mon avis, c'est probablement la plus grande erreur que les conservateurs canadiens, puis là, je mets conservateurs petit C, pouvaient faire. Parce que c'est irréconciliable, irréconciliable. On le voit maintenant avec, évidemment, dans l'Ouest, qui s'est un peu radicalisé à cause du pétrole qui se fait un petit peu malmener. Puis au Québec, t'as des gens qui sont friands de régimes sociaux, de programmes sociaux. Tu sais, c'est comme, il y a une certaine distance entre les deux. Puis, ben, du côté des conservateurs, on le voit. Ceux qui sont pas dans la mouvance Red Tory, sont fâchés. Ils sont fâchés. Ils sont vraiment pas contents avec Erin O'Toole et son approche. Et je disais ce matin, les journaux de l'Ouest canadien, qu'il y en a qui lui reprochent, justement, que de se déplacer plus vers le centre, c'est ce qui lui a coûté, finalement, l'élection, qui aurait pu très facilement devenir, lui aussi, un premier ministre minoritaire.
Ouais. Mais, tu sais, dans cette campagne-là électorale, il s'est fait connaître de tous les Canadiens. Je pense que c'est un petit peu un point de passage obligé aussi pour espérer des lendemains meilleurs. Là, au moins, les gens le connaissent.
Oui, puis c'est pas un gars qui fait peur. Shear,
c'était autre chose.
Shear, c'était vraiment, vraiment, vraiment autre chose. Puis il nous rappelle pas non plus Stephen Harper.
Non.
Il vient vraiment pas du même moule que Stephen Harper. C'est pour ça que je te dis, si les conservateurs, surtout les conservateurs les Blue Tories, se mettaient en tête de s'en débarrasser, je crois vraiment que ça serait une erreur.
Ouais. Lise, je sais que tu as été profondément troublée là, par les images qui nous parviennent des États-Unis, de la frontière du Texas, où il y a des migrants haïtiens qui essaient de passer au Texas et là sont interceptés par des gardes frontaliers américains qui sont juchés sur des chevaux puis qui, à coup de fouette, essaient de les renvoyer de l'autre côté. C'est des images, c'est des photos qui glacent là, ça.
Écoute, tu regardes ça, là, je veux dire, droit au but, moi, ça m'a rappelé, j'étais pas là, mais pour moi, c'était des images qui auraient pu sortir de l'époque de l'esclavage.
Ouais.
Parce que quand un propriétaire terrien d'une plantation voyait qu'un de ses esclaves, par exemple, avait fui, ben il partait après, justement, à coup de cheval avec... Ils nous disent que c'est pas un fouet, d'ailleurs, que ces gens-là avaient. C'est des longues rênes dont les cavaliers se servent pour faire du dressage.
Subtile distinction, hein?
Écoute, il y en a pas.
Ben
je dis, il y en a absolument pas. Ça fait aussi mal l'un que l'autre. C'est complètement absurde. Tu sais, ces gens-là, là, du Border Patrol américain, là, ils sont considérés comme le corps pas policier, mais métier mi-militaire, mi-policier, le plus cruel aux États-Unis. Et quand Trump a voulu protéger la Maison-Blanche des manifestants de Black Lives Matter, je suis certaine que tu vas te rappeler qu'il avait fait appel à des Border Police. Mm-hmm. Il leur avait enlevé leur nom, leur tout pour qu'ils soient pas. Et eux, c'était comme on dirait les troupes d'attaque et pas identifiés. Il pouvait se passer n'importe quoi. Mm-hmm. Tout le monde regardait dans l'autre direction. Alors, est-ce qu'on s'étonne qu'ils fassent ça à la frontière avec le Mexique à partir du Texas? C'est pas étonnant, mais ce qui est étonnant, moi, ce que je comprends pas là-dedans, puis peut-être que toi, tu peux me l'expliquer. Quand ils font ça, ces gens-là, là, ils sont pas conscients de ce que ça envoie comme message? Pourquoi ils vont pas? Je veux dire, comment ça se fait qu'ils ne le voient pas alors que des millions d'Américains le voient?
Ben, probablement parce qu'ils trouvent qu'il y a des millions d'Américains qui disent « Hey, vous êtes pas assez durs aux frontières. Regarde, Trump a eu des dizaines de millions de votes avec ce discours-là. » Mais regarde, on va se réconforter avec une chose, Lise, en terminant.
Oui.
Là, c'est que Richard Etu, sur son blog, cite là, il y a quelques minutes à peine une déclaration d'Alejandro Mayorkas. Alors, qui est Alejandro Mayorkas? Il est secrétaire à la sécurité intérieure des États-Unis, donc un ministre du gouvernement Biden.
Le boss du Border Police.
Exactement. Et voici ce qu'il déclare à propos de ces images-là. « J'ai été horrifié par ce que j'ai vu. Je vais laisser l'enquête suivre son cours, mais les images que j'ai observées m'ont profondément troublé. Cela défie toutes les valeurs que nous cherchons à inculquer à nos gens. »
Bien dit.
Bon, alors souhaitons que l'enquête, effectivement, ait bien lieu et qu'on mette
Puis souhaitons aussi que Donald Trump ne revienne pas au pouvoir.
Oui, ça,
on,
je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, c'est sûr.
C'est des restants de Trump, ça.
Pleinement d'accord avec toi. Hey, Lise, merci.
Hey, moi, je te remercie. Puis, si tu veux d'autres tomates.
Ouais, ouais, je t'appelle. Je vais te texter.
OK.
Lise Ravary, merci.
Merci.
Ciao. OK, au retour, on parle de Jonathan Drouin, bien sûr, là, les entrevues qu'il a données hier à TVA Sport et à RDS suscitent beaucoup de réactions et on revient sur ce sujet.